おかしい、おかしい。
C'est lors de l'émission Dialogue entre Congolais avec Céline Couté à la présentation. Bonsoir, les parlements du Congo-Brazzaville demandent au gouvernement des deux Congos de rapatrier rapidement les réfugiés de l'Équateur installés dans la Likwala. La Likwala, c'est au Congo-Brazzaville. Comment analyser cette demande? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission Bienvenue au Kieni. Il est ministre de la Communication et chargé des relations avec le Parlement du Congo-Brazzaville. Il est en ligne. Bonsoir, monsieur le ministre. La réalisation me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Avec moi dans ce studio, Ferdinand Kambéré, ministre des Affaires sociales du gouvernement central de la RDC. Bonsoir, monsieur le ministre.
Oui, bonsoir.
Et madame Céline Schmitt, elle est chargée des relations extérieures de la représentation du HCR en RDC. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Vous êtes nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Malonga Koubali de Bandundouville. La décision des parlementaires est fondée, mais il faut tenir compte de la loi relative à la protection des réfugiés. Est-ce que ces réfugiés sont civils ou militaires? Et Robert Baomé de Bukavu, si c'est pour des raisons purement sécuritaires, la demande du Parlement du Congo-Brazzaville de rapatrier nos compatriotes réfugiés à la Likwala est fondée et légitime. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il est temps que le gouvernement de la RDC prenne à cœur et au sérieux cette demande du Congo-Brazzaville pour lui éviter les phénomènes du genre Interahamwe que connaît aujourd'hui l'Est de la RDC. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Des parlementaires du Congo-Brazzaville appellent Kinshasa à procéder urgentement au rapatriement des 120 000 réfugiés RD congolais venus de l'Équateur au motif qu'ils sont devenus source d'insécurité au nord du pays d'accueil. Les réfugiés en provenance de la province de l'Équateur se retrouvent dans la Likwala après les conflits armés dans cette province depuis la fin de l'année dernière. Les parlementaires du Congo-Brazzaville reprochent aux réfugiés de dévaster les champs des populations autochtones et d'être de plus en plus facteurs d'insécurité dans la région. Ils déclarent que plusieurs d'entre eux sont armés. Le point depuis Brazzaville avec Arsène Séverin.
La situation est grave, a déclaré le week-end dernier à Brazzaville André Obani-Itu, président du Sénat. Il a ensuite, lors de la clôture de la session administrative de cette institution, appelé les gouvernements de la RDC et du Congo-Brazzaville ainsi que la communauté internationale à vite préparer les conditions de retour de ces quelques 120 000 réfugiés de l'Équateur établis dans la Likwala au nord du Congo-Brazzaville. Un son de cloche similaire a également été entendu le même jour à l'Assemblée nationale. D'après ces parlementaires, les réfugiés de l'Équateur dévastent les champs agricoles et pillent les ressources de pêche des populations autochtones. Les réfugiés créent l'insécurité dans la région, avait-il soutenu. La ministre de l'Action humanitaire a informé que de nombreux réfugiés portaient des armes et bien souvent, le territoire et les eaux du Congo-Brazzaville sont utilisés comme théâtre d'affrontement entre les FARDC et les Enyélé. Arsène Séverin, Brazzaville, Radio Capi.
Merci Arsène Séverin pour ce reportage. Bienvenue au Kieni, bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes ministre de la Communication et chargé des relations avec le Parlement du Congo-Brazzaville. Vous venez de suivre le reportage d'Arsène Séverin. Est-ce que vous confirmez d'abord les faits que dénoncent vos parlementaires?
Madame, ce qu'il faut dire avant tout, c'est que les parlementaires congolais ne reprochent rien aux réfugiés. Lorsque le président du Sénat congolais, le président Obami-Itu, prend la parole, c'est pour appeler à ce que les deux gouvernements trouvent une solution le plus rapidement possible pour que nos frères réfugiés chez nous de la RDC puissent retrouver leur terre, puissent retrouver leur famille. Il s'agit là, madame, de rien de moins que d'une volonté d'apaisement de la part du président du Sénat congolais et de la part des parlementaires congolais. On n'a pas la volonté, à aucun moment, il y a une quelconque volonté visant à indexer les réfugiés de la RDC qui se trouvent sur le territoire de la République du Congo. Parce que nous savons bien, madame, que nous partageons le même destin. Le destin de la RDC est aussi le destin de la République du Congo. Et nous ne pouvons pas mettre à l'index nos frères qui sont chez nous en raison d'une situation qui les dépasse. Et nous, au gouvernement de la République du Congo, comme nos parlementaires, nous voulons simplement que nos frères de la RDC vivent dans les conditions qui doivent être les meilleures, donc vivre au sein de leur famille, en République démocratique du Congo. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il existe un certain nombre de solutions possibles. On y viendra peut-être, madame.
Oui, monsieur le ministre, mais les parlementaires du Congo Brazzaville accusent ces réfugiés de s'aimer la sécurité dans la Likwala.
Madame, à un moment donné, les faits sont les faits, et les faits, il se trouve que des fois, ils sont têtus. Qu'est-ce qui se passe dans le département de la Likwala? Nous avons un peu plus de 115 000 réfugiés en provenance de la RDC sur un territoire qui compte à peu près un peu plus de 170 000 habitants. Lorsque vous avez cet afflux, doublement de la population, automatiquement vous avez une concurrence sur les biens qui se trouvent sur les marchés, sur les ignames, sur le manioc, etc., etc., sur les activités de pêche, sur les activités de chasse, etc., etc., madame. Cette concurrence, vous l'imaginez bien, n'est pas sans créer quelques heures, n'est pas sans créer quelques difficultés, n'est pas sans créer quelques situations d'insécurité. Donc, si les parlementaires congolais prennent la parole, ce n'est pas pour indexer. C'est pour mettre en avant une réalité qui est là, et cette réalité-là, et celle-là, elle est liée à une concurrence économique sur les marchés, sur les territoires de chasse, sur les territoires de pêche. À partir de la manière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous nous asseyons, gouvernement de la République du Congo, gouvernement de la République démocratique du Congo, avec les partenaires internationaux, pour trouver une solution la meilleure. Peut-être en créant des couloirs humanitaires, en créant des zones de sécurité en République démocratique du Congo. Ce qui s'est passé en Afrique, ce qui s'est passé par exemple en Europe orientale, madame, est là pour nous montrer les voies et les moyens possibles pour régler cette situation que nous connaissons dans le département de la Likwala. À aucun moment, je le rappelle encore, nous avons eu la volonté de mettre à l'index nos frères de la République démocratique du Congo. Madame, je vous dirai simplement ceci encore. Madame, juste un point. Le gouvernement de la République du Congo supporte aujourd'hui à lui tout seul le coût économique et financier de cette situation. Nous le faisons parce que ce sont nos frères. Nous le faisons aussi parce que nous partageons le même destin, madame. Et ça, c'est très important à souligner.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur Ferdinand Kambéré, vous êtes ministre congolais des Affaires sociales, ministre congolais de l'RDC, des Affaires sociales. J'imagine que vous êtes au courant de cette demande des parlementaires du Congo Brazzaville. Comment vous réagissez à cette demande?
Je crois que tout de suite, je dois dire bonsoir et saluer tous les compatriotes qui se trouvent être dans un pays amis, voisins et frères, et aussi tous les compatriotes du pays voisin qui ont accueilli nos frères. Donc à cela, je crois que je dois commencer par remercier non seulement le président de la République du Congo, mais aussi les parlements, les ministres, donc le gouvernement, ainsi que toute la population. La revendication, je crois que mon collègue des affaires étrangères, des parlementaires congolais, elle est légitime. Le ministre de la communication et relations avec les parlements vient de le dire, et je dois dire que je dois les remercier parce que au début on a cru qu'ils étaient accusés de créer l'insécurité, qu'ils étaient porteurs d'armes, que ceci vient d'être corrigé, que tout simplement, c'est une question qui est liée à la concurrence économique du fait que la population se trouvait brusquement doublée. C'est pas la faute de nos frères qui sont allés de l'autre côté, tout le monde le sait, mais que par le fait, c'est la situation économique et sociale se complique. On n'a jamais budgétisé cela. Je trouve qu'il est légitime que la question soit débattue entre les deux gouvernements. Non seulement entre les deux gouvernements, les deux pays étant membres, je crois, de l'ONU, que aussi la communauté internationale voit comment nous aider les deux gouvernements à pallier aux situations humanitaires de ces populations, des deux populations, non seulement la population qui est en déplacement vers un pays voisin, mais aussi la population qui accueille. On a tous droit à cette assistance-là. Donc, je crois que c'est légitime, comme je l'ai dit, et les deux gouvernements, je sais qu'il y a déjà eu des rencontres, des membres de mon gouvernement se sont déjà déplacés jusqu'à Congo-Brazza.
Vous-même aussi, vous êtes déjà déplacé, monsieur le ministre?
Pas encore, on est en train peut-être de l'envisager, mais je sais que mon collègue, parce que vous savez, je suis là depuis février, mais mon collègue, celui, c'est-à-dire l'ancien que j'avais remplacé, lui s'était déjà déplacé. Donc mon ministère des Affaires humanitaires s'était déjà déplacé vers.
Et ces rencontres ont donné quoi?
Ces rencontres, madame, vous savez, apparaît question, il y a toujours l'évaluation de la situation. On devait donc évaluer ensemble avec le gouvernement de la République du Congo la situation humanitaire, essayer de mobiliser les ressources, essayer d'appeler des fonds pour l'assistance humanitaire. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Je sais qu'au niveau de mon gouvernement, par exemple, au niveau du Premier ministre, il a été constitué un comité qui devait être mixte. Non seulement le gouvernement, mais aussi avec la communauté humanitaire qui est ici, pour essayer de voir comment trouver les moyens nécessaires pour viabiliser Dongo, pour attirer que ces populations reviennent.
Et donc les moyens ne sont pas encore réunis?
On est en train de réunir, madame, parce que la communauté internationale nous avait dit qu'ils avaient déjà réuni au moins 5 millions. Okay. Et que, au niveau du gouvernement, vous le savez, vous suivez, je crois, nous avons fait un effort avec un peu de ressources que nous avons, parce que nous, on ne sait pas directement aller prendre de force ceux qui sont de l'autre côté. Mais ceux qui sont, par exemple, à Guémena, et qui attendaient rentrer à Dongo, on l'a fait, les 18, ils sont allés à Dongo, ils sont bien arrivés, et je crois, mercredi, je vais moi-même encore me déplacer pour aller à Guémena, pour suivre les déplacements vers Dongo. Ceux-là qui sont arrivés à Dongo sont en train de rassurer ceux qui sont de l'autre côté du pays qu'ils peuvent revenir à Dongo, même si toutes les conditions qu'on peut réclamer, les conditions idéales qu'on peut réclamer de viabilité, comme la sécurité est revenue, ce que nous appelons nos compatriotes de regagner, les quoi.
Mais comment ils vont vivre quand toutes ces conditions ne sont pas encore réunies?
Madame, nous avons, je l'ai dit, depuis les 18, déplacé au moins 30 ménages en échantillon qui sont bien arrivés. Ils étaient heureux de revoir d'abord leur terre naturelle, leur terre d'origine, que les cases soient là ou pas, on est en train de voir.
Ils vont dormir à la belle étoile.
Madame, un homme, il se cherche des moyens. Lorsqu'il a sa terre, il est heureux de retrouver sa case, même si elle est détruite. Et ensemble, on peut toujours construire. Moi, je crois que l'effort à faire, c'est tous dans la sensibilisation de dire on est toujours mieux que ce soit, et non ailleurs.
Merci, monsieur le ministre. Madame Céline Smith, vous êtes chargée des relations extérieures de la représentation du HCR en RDC. Comment vous analysez cette demande des parlementaires du Congo-Brazzaville?
Oui, tout d'abord, je voudrais dire que nous, HCR, nous sommes conscients de la charge que peut représenter la présence des réfugiés en République du Congo. La charge à la fois pour les autorités sur place, mais également pour la population hôte qui accueille ces réfugiés. Et nous sommes là, en fait, pour partager ce fardeau et apporter notre assistance.
Et comment vous le faites?
Tout mettre en œuvre, en fait, pour assister ces réfugiés en République du Congo. Donc, comment on assiste ces réfugiés? On a donné de l'aide d'urgence à ces réfugiés depuis leur arrivée, en termes de moyens de vie, en termes d'abri également, en termes de santé, en termes d'éducation, pour que ces réfugiés puissent vivre en République du Congo, mais également pour alléger le fardeau de la population locale qui les accueille. Donc, les infrastructures que nous mettons en place, par exemple en matière de santé, d'eau et d'assainissement, sont à la fois pour les réfugiés, mais également pour la population hôte qui peut visiter les centres de santé, qui bénéficie de la gratuité des soins dans ces centres, qui bénéficie des activités en matière d'assainissement que nous mettons en œuvre en République du Congo.
Le HCR a construit même une école dans la Likwana, je crois, pour les réfugiés. Est-ce que ce n'est pas une façon là de retenir les réfugiés dans ce département de la Likwana? Déjà que le Congo-Brazzaville demande au gouvernement congolais RDC de faire vite pour le rapatriement de ces réfugiés.
Ce que nous avons fait, effectivement, c'est que nous avons appuyé plusieurs écoles dans les sites où des réfugiés sont accueillis pour permettre à ces enfants de poursuivre leur éducation. Ces enfants sont en exil, sont loin de chez eux, il faut quand même qu'ils puissent continuer à aller à l'école. Donc c'est pour ça que nous avons appuyé des écoles dans les sites où sont les réfugiés.
Alors, Madame Ya, les parlementaires ont aussi dénoncé le fait que plusieurs de ces réfugiés détenaient des armes. Est-ce que vous avez fait le même constat? Le HCR a fait le même constat que les parlementaires du Congo-Brazzaville?
Le HCR appuie les réfugiés civils. Donc, on porte une assistance aux réfugiés civils qui sont en République du Congo.
Il y a aussi des réfugiés militaires là-bas?
Nous n'avons pas vu de militaires.
Monsieur le ministre de la Communication, bienvenue au KMI. Je reviens sur la question des armes. Hein. Vos parlementaires ont dit que ces réfugiés congolais détenaient des armes. Est-ce que vous confirmez ça?
Madame, vous savez, dans ces situations de crise, lorsque quelques populations sont ballottées à gauche et à droite, lorsqu'il faut aller trouver refuge ailleurs que sur son sol, à un moment donné, on traverse aussi quelque peu avec quelques armes. Mais l'armée congolaise est là, l'armée congolaise assure la sécurité dans le département d'Abitoala. Nous avons aussi sécurisé les déplacements sur l'Ubangi. Nous avons déplacé aujourd'hui, nous avons plus exactement envoyé un peu plus de 400 militaires supplémentaires dans l'Abitoala pour sécuriser le département. Et sur ce segment de la sécurité, il faut reconnaître que l'armée congolaise tient tous les leviers. Il n'y a pas de situation, il n'y a pas d'absence de sécurité dans le département d'Abitoala. Que l'on retrouve ici et là quelques réfugiés avec quelques armes, madame, dans ces situations-là, c'est toujours le cas. Mais quoi qu'il en soit, le gouvernement de la République du Congo, l'état-major de l'armée congolaise, aujourd'hui a tous les éléments en main pour assurer la sécurité dans ce département-là. Ça, c'est la réalité du terrain. Mais il y a quelques faits ici et là. Ça arrive partout, madame. Donc, il ne faut pas non plus exagérer les situations. Nous avons le contrôle des segments sécuritaires dans le département de la Bicola. Mais quoi qu'il en soit, lorsque vous avez un doublement de la population, lorsqu'il y a un événement malheureux qui arrive ici et là, automatiquement, cet événement prend de l'ampleur, madame. C'est là un fait sociologique avéré partout dans le monde. Mais quoi qu'il en soit, madame, je voudrais insister là-dessus, cette situation-là mérite une solution humanitaire. Je le rappelle encore, nos destins sont liés. Le destin de la République démocratique du Congo comme le destin du Congo sont les mêmes et nous devons toujours trouver les solutions les meilleures et les plus apaisantes et qui permettent à nos deux pays d'avancer. Il ne sert à rien de mettre à l'index telle ou telle communauté. Et les parlementaires congolais n'ont jamais mis qui que ce soit à l'index, madame, je tiens encore à le rappeler, alors que j'entends sur l'antenne Okapi un reportage dans lequel les parlementaires congolais auraient mis à l'index les réfugiés de la RDC. Il n'en est rien, madame. Au contraire, tous les parlementaires congolais en appellent à une solution humanitaire parce que, madame, ce sont nos frères et nous ne pouvons pas les laisser dans cette situation-là. N'oubliez pas, madame, que ces réfugiés ont été localisés dans les écoles de la République du Congo. On l'a fait parce que ce sont nos frères, parce qu'il fallait trouver une solution rapidement, madame.
Et donc,
le coût financier est subi par qui? D'abord par nous. On le fait, madame, parce que ce sont nos frères, parce que nous avons le même destin. Donc, il ne sert à rien de mettre qui que ce soit à l'index.
Et donc, monsieur le ministre, on peut retenir que la présence de ces réfugiés n'est pas source d'insécurité pour la population autochtone.
Ce qu'il faut retenir, madame, et les faits sont là, et l'histoire du monde le montre dans ces situations-là, lorsque les réfugiés traversent, vont sur d'autres territoires, qu'ils aient combattu ou qu'ils n'aient pas combattu, ils traversent avec ce qu'ils ont sur eux. Ça peut être des armes, ça peut être des couteaux, ça peut être des matelas, ça peut être tout ce que vous voulez pour vivre de l'autre côté. Et lorsqu'on traverse une frontière dans ces cas-là, on y va avec tous ces éléments-là. Donc que les forces de sécurité congolaise aient pu ici ou là trouver des réfugiés avec des armes, c'est vrai. Est-ce que la situation dans la Bicola a atteint un point de tel qu'il y a force de sécurité? Non. Nous maîtrisons tous les leviers sécuritaires dans le département de la Bicola, les forces armées congolaises, avec le chef d'état-major. On assure aujourd'hui, font tout, madame, pour qu'il n'y ait pas d'incident. Je le rappelle encore, nous avons déposé sur place plus de 400 hommes supplémentaires.
Merci, monsieur le ministre. Comment vivent ces réfugiés sur place à Ipondo, les détails avec vous à Saint-Séverin?
Arrivés dans la Likouana, au nord du Congo Brazzaville, en octobre dernier, les réfugiés de l'Équateur passent des moments difficiles. Sur le plan alimentaire, par exemple, nombreux insatisfaits du riz, des petits pois et de l'huile végétale distribués par le PAM retournent dans leur village pour récolter des légumes et des tubercules. Mais la chute traversée de l'Ubangi n'est pas facile, vu que assez souvent, les Sayabese et les Émilés patrouillent et combattent sur ces eaux. Pour survivre, plusieurs responsables de famille s'attaquent aux plantations des populations autochtones et pillent leurs ressources de pêche. Cette pression socio-économique qui influence également les marchés du Fondo, de Betou et de Dongou, où les réfugiés et les autochtones font face à une vraie flambée de prix des produits de première nécessité. À Saint-Séverin, Brazzaville, Radio Capi.
Madame Céline Schmitt, chargée des relations extérieures de la représentation du HCA en RDC, les conditions de vie difficiles dans la Likouana.
Les conditions de vie d'un réfugié ne sont pas faciles, bien sûr. Ce que le HCR a essayé de faire avec les autres partenaires des Nations Unies, c'est d'apporter une aide d'urgence à ces réfugiés depuis le début de leur arrivée dans la Likouana. Une assistance en biens essentiels pour survivre, une assistance en abri, éducation et santé, comme vous disiez. Mais nous sommes également en face d'un certain nombre de défis. Notamment, les réfugiés sont logés dans environ 90 sites le long de la rivière Bangui, sur une distance d'environ 600 km. Beaucoup de sites ne sont accessibles que par bateau. À cette période de l'année, il est difficile d'accéder à certains sites puisque l'eau de la rivière est très basse. Donc nous sommes en fait confrontés à ce genre de défi. Et nous essayons d'apporter un maximum d'aide là où nous avons accès.
Monsieur le ministre des Affaires sociales, Ferdinand Kambéré, qu'est-ce que le gouvernement congolais fait pour assister ces réfugiés qui vivent dans des conditions difficiles quand même, il faut le dire?
Vous avez compris que ce sont des compatriotes qui se trouvent être réfugiés dans un pays, voilà. Et que donc nous comptons beaucoup sur la solidarité internationale dans le sens où les poids déjà, comme l'a exprimé tout à l'heure le ministre de la communication du Congo, il l'a dit, ce sont des événements qui arrivent et qui ne sont pas budgétisés par nos gouvernements. Du reste, avec la précarité des moyens, comme vous le savez, ne comptent que sur des billets.
Et donc,
c'est à cela que nous appelons plus à la solidarité internationale, au sens à la solidarité mondiale, au sens qu'il y ait plus d'assistance. Et aussi, non seulement comme vous l'a dit, et comme vient de le dire la représentante de ACER, qu'on aménage des écoles, qu'on appuie la santé. Si on pouvait en même temps, à Dongo sur place, comme la sécurité est revenue, créer ces mêmes écoles, ouvrir ces mêmes écoles, les dispensaires, ceux-là qui sont en train de retourner, parce que les autres sont en train de retourner même à pied, sauront qu'à Dongo, on est en train de viabiliser, ils sont prêts à rentrer, madame.
Donc, oui, ça c'est le HCR qui fait, mais le gouvernement lui-même, le gouvernement congolais fait quoi?
Je vous l'ai dit, madame, les premiers besoins, c'était qu'on nous aide à rentrer à Dongo. Et nous avons commencé, nous avons fait le premier voyage, tout le monde le sait. C'était avec d'ailleurs la satisfaction d'Ocha. Et mercredi, moi-même, je vais me déplacer pour faire encore l'évaluation de cela, pour voir ce qu'on peut encore faire. Mais comme je vous l'ai dit, il y a un vaste programme qu'on doit faire ensemble avec la communauté humanitaire, parce que comme vous le comprenez, il faut non seulement la solidarité nationale, mais aussi la solidarité mondiale.
Et donc le retour, c'est pas pour aujourd'hui ou demain?
Si on est en train de le faire, c'est ce que j'ai dit. Et que,
ça peut prendre combien de temps?
Pour, vous savez, ils sont dans plusieurs sites. Pour ceux-là, au moins qu'ils sont déplacés internes dans notre pays, à Gemena, à Zongo et les autres qui doivent rentrer à Dongo et à Goussouma, ainsi de suite, et les environs. Ils sont nombreux, ils sont dans plusieurs sites et tous attendent rentrer d'abord et bien sûr continuer avec l'assistance sociale parce que comme nous le disons, il faut viabiliser. Cela va aussi attirer ceux qui sont de l'autre côté de la frontière et ensemble avec les gouvernements du Congo, je suis sûr qu'on va trouver des mécanismes qui soient et c'est pour aider nos compatriotes à retrouver leur village, à retrouver leur champ.
Monsieur le ministre, bienvenue au Kenya. Les conditions de vie difficiles, est-ce que le gouvernement congolais entreprend des démarches pour pousser les réfugiés congolais RDC de rentrer chez eux?
Oui, madame, vous savez, dans ces situations-là, il faut toujours une solution internationale. Et comme le dit le ministre Kombéré, nous avons les moyens que nous avons. Et les budgets ne sont jamais extensibles à souhait, madame, malheureusement, pour nos pays. Et nous avons, nous, le gouvernement du Congo-Brazzaville, mis les moyens nécessaires pour accueillir nos frères de la République des montagnes du Congo. Maintenant, pour aller un peu plus en avant, il faut que la communauté internationale intervienne en termes de financement. Et ensuite, lorsque la communauté, ensuite, la confiance revenant, madame, on peut penser à mettre en place ces couloirs humanitaires, ces zones de sécurité en République démocratique du Congo. Mais là encore, le gouvernement frère de la République démocratique du Congo ne pourra pas à lui seul subir, supporter ce coût financier-là. Il faudra que la communauté internationale donne les moyens financiers pour régler ce problème-là. Puisqu'on parle de communauté internationale, madame, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que nous tous, sur cette planète, partageons le même destin. Que les difficultés qui peuvent arriver en République démocratique du Congo sont les difficultés de la République du Congo, de la République centrafricaine ou encore des pays occidentaux. Parce que on peut penser qu'il y aura aussi un afflux d'immigrés un peu partout en Europe lorsqu'il y a des crises de ce type-là. Donc il faut que ceux qui ont les moyens financiers, les pays occidentaux, mettent la main à la pâte, si je puis me permettre, donnent les moyens financiers à la République du Congo comme à la République démocratique du Congo pour régler ce problème. Leur intervention est aussi source d'apaisement parce que à ce moment-là, nous avons un tiers dans le jeu, et lorsqu'un tiers intervient dans un jeu, madame, il est là pour apaiser. Parce que nos frères de la RDC qui sont venus chez nous, c'est parce que il y a conflit, c'est aussi parce que certains aussi, d'une certaine manière, ont une crise de confiance. Et la confiance va revenir lorsque d'autres partenaires aussi vont intervenir dans ce jeu-là. Et aujourd'hui, il faut retenir que nos deux gouvernements, Brazzaville et Kinshasa, font beaucoup d'efforts, madame, pour qu'il y ait un retour de ces réfugiés dans leur village, comme le dit le ministre Kombéré, sur leur territoire, madame. Il faut reconnaître nos efforts. Depuis le début de la crise, le président Denis Sassou Nguesso a pris attache avec le président Kabila pour discuter de cette situation-là. Et ensuite, les ministres des Affaires étrangères se sont saisis de la question, les gouvernements se sont saisis de la question. Et aujourd'hui, nous tous, à différents niveaux, nous nous saisissons aussi de cette question pour trouver une solution la meilleure. Je le rappelle encore, nous avons intérêt à trouver une solution humanitaire parce que nos deux pays partagent le même destin. Et nous en appelons aussi à la communauté internationale. Le fardeau ne doit pas être que le fardeau de nos pays, même si ce sont nos frères.
Merci, monsieur le ministre. Les auditeurs sont nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est par exemple Augustin Mango de Kindu Manima. Je pense que le rapatriement des réfugiés doit non seulement être volontaire, mais encore avalisé par le HCR. À mon avis, je pense que la démarche de ces parlementaires paraît comme un acharnement à l'endroit des Congolais. Madame Céline Schmitt.
Oui, bien sûr. Le retour des réfugiés est volontaire. C'est un des principes du retour. Il doit également se faire dans la sécurité et dans la dignité. Donc, pour que les réfugiés puissent rentrer chez eux, il faut d'abord assurer que ces conditions du retour soient mises en place. Également, les conditions pour un retour durable, c'est-à-dire qu'il y ait les infrastructures pour accueillir ces réfugiés de retour dans leur pays.
Et donc, pour le moment, les conditions ne sont pas réunies, selon le HCR, pour que ces réfugiés puissent rentrer au Congo, Kinshasa.
Le HCR a décidé de réétablir une présence dans la province de l'Équateur, à Guéména, mais aussi à Dongo, pour faire le suivi de la situation, mais également pour travailler en partenariat avec les autorités et les autres agences des Nations Unies, pour travailler, préparer, en fait, mettre en place les conditions propices pour un retour de ces réfugiés.
Et vous êtes à quel niveau là?
Nous allons effectuer une mission dans la province de l'Équateur dans les semaines à venir pour rétablir une présence là-bas. Pour rétablir la présence, il faut également que les conditions de sécurité soient en place. Donc nous allons envoyer une mission dans les semaines à venir dans la province de l'Équateur pour avancer avec notre projet.
Mais le gouvernement dit que les conditions sécuritaires sont déjà réunies. Les réfugiés peuvent rentrer. Il n'y a pas de problème pour ce plan.
Pour l'instant, le HCR n'est pas sur place. Donc, effectivement, nous allons travailler avec les autorités sur place pour voir justement si ces conditions sont là, les conditions de sécurité. Mais pour cela, il faut que nous ayons sur place et c'est ce qu'on va faire dans les semaines à venir.
Il y a un auditeur de Kinshasa, Albert, qui demande si on peut faire retourner ces Congolais de force. C'est faisable.
Le retour doit être volontaire. C'est un principe. Le retour est volontaire.
Et quand les forces sont rentrées, qu'est-ce qui se passe? On viole quelle loi?
C'est les conventions internationales, en fait. Les conventions relatives aux réfugiés, les lois internationales qui disent que le retour des réfugiés doit être volontaire.
Merci, Madame Céline. Robert Baumé de Bukavu, soutenez-vous si c'est pour des raisons purement sécuritaires la demande du Parlement, des parlementaires du Congo-Brazzaville, de rapatrier nos compatriotes réfugiés dans le département de la Likwala et fondé légitime. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il est temps que le gouvernement de la RDC prenne à cœur et au sérieux cette demande du Congo-Brazzaville pour lui éviter le phénomène des guerres, le phénomène du genre Interahamwe que connaît aujourd'hui l'Est de la RDC. Monsieur le ministre Ferdinand Kambere, comment vous répondez à cet auditeur?
Je crois que les matins du secrétaire général adjoint à charge des questions humanitaires et d'urgence de l'ONU avait été reçu par le Premier ministre. Et c'était à ma présence. Il a confirmé avoir qu'il est arrivé à Dongo. Et il a confirmé la présence d'une mission humanitaire à Dongo, peut-être pour l'étude. Je crois que ça, c'est déjà une confirmation qu'à Dongo et ses environs, Gossouma, il y a déjà la sécurité, il y a déjà la paix. Ceci est encore justifié par le fait de cette demande pressante de cette population de Dongo qui attend rentrer. Et c'est à cela que le gouvernement nous a donné cette mission de constituer un kit humanitaire urgent pour se déplacer et commencer le processus de rapatriement. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Ils ont fait, c'est vrai, la route est impraticable de Guémena jusqu'à Dongo, mais ils ont fait 2 jours, ils étaient heureux de retrouver leur terre, de retrouver leur village.
C'est vrai, ils vous ont dit personnellement qu'ils étaient heureux de retrouver leur village.
Elle-même l'a dit, parce que nous avons chargé toute une commission, c'était depuis qu'on était à Mbandaka, à la suite des événements du 4 et du 6, que après avoir assisté les déplacés de Makanja, Bomongo, que nous avons proposé de commencer de lancer le processus de déplacer, parce qu'ils demandaient eux-mêmes de retourner chez eux. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on est en train de poursuivre.
Parlant du processus des rapatriements, il y a Pépé Lissoumbi de Kisangani en province orientale qui dit ceci: les parlementaires du Congo Brazzaville ont raison. Il faut combien de temps à notre gouvernement pour préparer le retour de ces Congolais au pays? Combien de temps il vous faut?
Ceux qui sont au Congo voisin.
Ouais.
On vous l'a dit que c'est déjà une question internationale, madame. Parce que traiter déjà des réfugiés, ça veut dire qu'on parle de retour volontaire. Les informations que nous avons et qu'ils ont envie déjà de revenir. Et c'est à cela que, avec mon collègue de la communication du gouvernement frère du Congo, nous sommes d'accord de mettre même des mécanismes conjoints avec la République sœur du Congo. Mais nous appelons à la solidarité international, mondial, parce que c'est légitime, tous partageant le même destin, d'être assistés et que cette assistance ne soit pas dans les discours, parce que parfois nous voyons aussi que, sans accuser personne, qu'on appelle plus à la mobilisation des fonds, mais que la réalité, parfois, on attend que cela soit effectif, soit palpable, et un impact sur la population, sur le terrain. Et c'est à cela que vous m'avez vu demander, comme on est en train de le faire de l'autre côté, à Braza, et que ces gens veulent rentrer, est-ce qu'on peut aussi accompagner le gouvernement à construire quelques écoles, par exemple, un marché, et ainsi de suite, comme ça avec le gouvernement, dans une coordination, je vous ai dit qu'il y a déjà un comité, une commission constituée auprès du Premier ministre pour que la communauté humanitaire et le gouvernement, tous ensemble, on voit comment coordonner les actions sur Dongo.
Donc là, vous ne donnez pas une période bien précise, donc ça prendra le temps que ça prendra.
Madame, j'ai dit que le gouvernement a lancé le processus, il attend d'être rejoint efficacement par la communauté humanitaire et que efficacement parce qu'ils ont annoncé qu'ils ont déjà une présence. Acer vient de dire qu'ils veulent aussi avoir une présence à Dongo. Nous voulons que ceci soit effectif, que c'est des écoles on construise, des hôpitaux, des dispensaires on construise. Cela va attirer ceux qui sont au Congo-Brazzaville.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur, bienvenue au KMI, ministre de la Communication et chargé des relations avec le Parlement du Congo-Brazzaville. Il y a cet auditeur qui pose la question, Malonga Koubali de Bandundouville. La décision des parlementaires est fondée, mais il faut tenir compte de la loi relative à la protection des réfugiés. Est-ce que ces réfugiés sont civils ou militaires?
Oui, madame, vous savez, dès le départ, nous avons pris parti de protéger les réfugiés qui venaient de la République démocratique du Congo. Nous avons tout fait, madame. Nous avons installé dans nos églises, dans les écoles, etc. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, y a envoyé madame Raoul, ministre des Affaires sociales, qui a séjourné sur place, qui a mis en place un plan de prise en charge. Madame Céline Smith pourra certainement en témoigner, puisque HCR y est, le Programme Alimentaire Mondial aussi y est. Nous avons fait beaucoup de choses, madame, énormément de choses. Et ce que nous souhaitons avec M. Combéré, c'est qu'il y ait un plan, qu'il y ait une organisation mise sur pied qui permette à nos frères de retrouver leur territoire. Et à aucun moment, je le rappelle encore, les parlementaires congolais n'ont voulu un décret qui que ce soit. À un moment donné, les parlementaires ne font que relayer la réalité du terrain. Et la réalité, madame, c'est ce que je vous disais au début, concurrence sur les territoires de pêche, concurrence sur les territoires de chasse, concurrence sur les marchés, puisqu'il y a doublement de la population, ce qui n'est pas sans créer quelques difficultés, pas d'insécurité, bien sûr, puisque les forces armées congolaises maîtrisent la situation sur le plan sécuritaire, et le ministre Kambéré l'a encore rappelé tout à l'heure. Nous avons, je le rappelle encore, madame, dépêché, en plus des soldats que nous stationnons sur place, plus de 400 hommes. Le long du bandit, c'est sécurisé, la situation est maîtrisée. Maintenant, il faut qu'il y ait un retour de la confiance. Il faut peut-être un peu de temps. Il faut ensuite que la communauté internationale intervienne. Madame, vous savez, lorsque je m'appelle à la communauté internationale, ce n'est pas pour dire que le pays, que ce soit la République démocratique du Congo ou la République du Congo, sont dans l'incapacité de prendre en charge leurs enfants, entre parenthèses, de prendre en charge leurs ressortissants. Il n'en est rien, madame. Sauf que la situation budgétaire de nos pays est telle qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre en charge, au-delà de nos capacités budgétaires, cette situation nous-mêmes. Et dans la mesure où tout le monde, tous les discours aujourd'hui parlent de communauté internationale, de mondialisation, d'interconnexion des destins, madame, à un moment donné, il faut passer du discours à la réalité. Moi, j'aime à dire, madame, à un moment donné, il faut que le désir, madame, le désir de communauté internationale rejoigne la réalité. Et la réalité, madame, c'est de mettre la main à la pâte, pour parler trivialement, et pour que cette solution se résolve et trouve une solution humanitaire la meilleure, madame, dans l'intérêt de nos pays.
Merci, monsieur le ministre. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, Dialogue Congolais de ce soir se penche sur la demande du Parlement du Congo-Brazzaville au gouvernement des deux Congos de rapatrier rapidement les réfugiés de l'Équateur installés dans la Likwala. Comment analyser cette demande? C'est notre thème de ce soir. La suite juste après le rappel de nos contacts.
Dialogue Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Madame Céline, à entendre les deux ministres du Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, ils reviennent tout le temps sur l'appui de la communauté internationale. Qu'est-ce que le HCR peut faire?
Tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, nous reconnaissons l'effort qui est apporté par le gouvernement, les autorités de la République du Congo pour accueillir ces réfugiés. Et nous sommes là pour partager le fardeau. Donc, ce que nous avons fait avec la communauté internationale, les agences des Nations Unies qui sont sur place, nous avons lancé un appel conjoint pour obtenir des financements, pour répondre à cette situation. Pour l'instant, nous avons obtenu 30% des fonds qui sont demandés. Avec ces fonds, nous mettons en œuvre une aide d'urgence à ces réfugiés qui sont là-bas, justement pour alléger le fardeau et des autorités et des populations qui accueillent ces réfugiés.
Merci madame, monsieur le ministre Ferdinand Kambere. Il y a Blanchard Loana de Mbandaka l'Équateur qui dit ceci. Pourquoi l'État congolais pour s'organiser en mettant au premier plan son rôle de protection de la population doit attendre que Congo-Brazzaville puisse le lui rappeler.
Je remercie beaucoup Blanchard. Je crois qu'il ne dira pas ça si il sait ce que le gouvernement est en train de faire. D'abord, pour sécuriser la province de l'Équateur, ça demande énormément de moyens. La mission humanitaire qui était proposée et qui devait être conjointe, le gouvernement et la communauté humanitaire, elle devait avoir déjà lieu, ni qu'étaient les conditions sécuritaires précaires, mais qu'aujourd'hui, le gouvernement rassure que du côté de Dongo et ses environs, la sécurité est retournée. Et qu'en réalité, il y a déjà un premier groupe qui est allé. PAM d'ailleurs est sur place, s'il faut parler de quelques partenaires. PAM est déjà sur place. On attend aussi que PAM commence à distribuer les vivres qui sont sur place là-bas, parce que la population en a besoin. Et que donc, nous n'avons pas attendu que le Parlement congolais en face réclame ou élève les temps. Le ministre, mon collègue, mon frère, bienvenue, le ministre, il vient de le dire ici qu'on a indexé personne. Ce n'est qu'un cri d'alarme. Ce n'est qu'un cri de détresse que nous lançons, un SOS que nous lançons légitimement du reste à la solidarité internationale pour que tous, étant qu'êtres humains, nous puissions voir comment contribuer à ce que ces gens retrouvent leur terre, ces gens retrouvent leur dignité. Parce que c'est cela, quelle que soit peut-être la faiblesse des conditions de retour, ces gens sont en train d'accepter de rentrer d'abord. C'est ça qui est important, parce qu'ils ont senti qu'il y a la sécurité.
Voilà, il y a notre auditeur de Bukavu, Matumaini Franklin, qui regrette le désintéressement de notre gouvernement pour l'avenir des filles et fils congolais réfugiés. Il pense que le gouvernement est apparemment désintéressé, c'est pas une priorité pour le gouvernement.
Au contraire,
parce que c'est toujours le Congo d'en face qui lève le temps. C'est le faux, et Kinshasa réagit après.
Ce n'est pas vrai, madame. Je vous ai dit qu'il y a tout un plan qu'on était en train de monter pour qu'ensemble, avec la communauté humanitaire, on essaie de mettre un plan de contingence humanitaire pour qu'on puisse non seulement intervenir de manière urgente, mais aussi prévoir des actions sociales, des actions de développement pour ça, parce qu'il y a encore cet aspect-là qui va nous aider aussi à juguler les conflits qui naissent à gauche, à droite. Il faut qu'on résolve les quelques problèmes sociaux entre communautés pour nos populations et dans nos villages. C'est ça, on est en train de le faire. Et je crois que pour ne pas trop exagérer, on est vraiment en étroite...
Profite aussi pour conclure, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, c'est pour dire que les gouvernements ne ménagent aucun effort pour essayer de contrer les difficultés. On sait que les difficultés sociales sont énormes, mais on est en train de vouloir agir à part des nouvelles approches où on a des plans, où on a des programmes pour essayer de trouver des solutions aux problèmes socio-économiques de notre population.
Merci, monsieur le ministre. Madame Céline, en 30 secondes, votre conclusion aussi.
Oui, ce que je voudrais rappeler, c'est que le HCR s'efforce à travailler pour trouver des solutions durables pour ces réfugiés qui sont en République du Congo et que nous allons continuer à travailler en partenariat avec les autorités des deux côtés pour trouver ces solutions durables.
Monsieur le ministre, bienvenue au Kémy, votre conclusion.
Oui, madame, elle est très simple. Elle vise simplement à ce que une solution soit trouvée le plus rapidement possible pour que chacun puisse rentrer chez lui et organiser sa vie, organiser le devenir de ses enfants de la meilleure façon possible. C'est le souhait que nous avons ici à Brazzaville, donc que nos frères puissent retrouver leur terre. Et pour cela, il faut que la concertation que nous avons engagée donc avec le gouvernement frère de la République démocratique du Congo, avec l'aide de la communauté internationale, aboutisse le plus rapidement possible.
Merci, monsieur le ministre.
Et que,
voilà. Voilà, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de dialogue entre Congolais. Merci aussi à nos invités, Sylvain Matoul de Tala Technique, au micro, auquel vous écoutez. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Votre programme sur la fréquence de la paix.